Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Bonjour à tous, je suis Alice Haché, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Brucker, la responsable RSE France et Benelux de Colgate Palmolive, l'entreprise américaine spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits d'entretien et d'hygiène du corps, détergents, savons, etc. Et vous avez, je crois, de nombreuses marques qu'on connaît tous, Elmex, donc Colgate, Palmolive. Bref, tu vas me parler un peu de tout ça. Je suis ravie de t'accueillir dans L'Empreinte.
Merci beaucoup pour cette invitation. Bonjour Alice.
Et peux-tu me parler un peu du groupe avant peut-être de rentrer dans le cœur du sujet RSE, puisque on est dans l'empreinte, donc on va parler RSE.
Bien sûr.
Peux-tu me parler un peu du groupe et de ses marques et peut-être de l'ADN commun de ces marques?
Oui, tout à fait. Donc c'est une entreprise américaine, tu l'as dit, qui existe depuis plus de 200 ans. Dont le siège était à New York et a été créé par William Colgate. Et effectivement, ça a commencé avec l'hygiène bucco-dentaire et a été très vite aussi associé avec Palmolive, donc les soins du corps. Aujourd'hui, en France, on a une dizaine de marques et tous les foyers ont certainement au moins une des marques du groupe.
Puisque... Il y a des marques françaises ou c'est des marques...
Oui, alors il y a notamment en produits d'entretien, on a Soupline, Lacroix, Ajax, même si Ajax existe dans plusieurs pays européens.
Exactement. Ça me rappelle. Tu sais, comme quoi, des trucs qui reviennent.
Exactement. Et on a aussi des marques qui sont, d'autres marques qui sont françaises, en soins du corps, avec la marque Tahiti, gel douche. Et Sanex, qui est d'origine espagnole, mais c'est vrai qu'elle est aussi très proche des consommateurs. Donc, on a toujours un peu l'image que c'est une marque de son propre pays. Et donc, il y a une certaine image aussi de marque française pour Sanex.
Et donc, c'est vous qui initiez la création des marques ou qui rachetez les marques quand c'est comme ça?
Un petit peu des deux.
D'accord.
Oui, oui. Okay. Sanex a été racheté il y a une quinzaine d'années.
Okay.
Et c'est la même chose pour Elmex, qui est une marque suisse-allemande à l'origine et qui a été là aussi achetée il y a une quinzaine d'années du laboratoire familial GABA.
Et donc, j'imagine qu'avant, on va dire, quand vous rachetez des marques, il n'y avait pas forcément la dimension RSE d'impact, etc. Est-ce que maintenant, ces sujets-là, c'est quand même quelque chose qui sont... Enfin, vous essayez de retrouver un ADN commun pour toutes ces marques ou est-ce que c'est à vous, finalement, de le définir, cet ADN commun à toutes?
Alors, la RSE dans le groupe existe depuis quand même très longtemps, notamment depuis les années 90. Et je vais te donner un exemple. Nous, on parle vraiment de la RSE en mettant l'impact environnemental, mais aussi l'impact social.
Ah bah oui, mais c'est les deux.
Exactement.
Clairement.
Et je m'occupe des deux, d'ailleurs. Et donc, pour te donner un exemple sur Colgate, et en France, ça va être décliné sous la marque Elmex, on a des campagnes de sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire dans les écoles primaires depuis les années 90 et dans le monde entier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a sensibilisé près de 1,4 milliard d'enfants à une bonne hygiène bucco-dentaire à peu près partout dans tous les pays où on opère. Et donc, c'est près de 200 pays dans lesquels on opère.
Et est-ce que ces produits, parce que c'est quand même de la première nécessité
oui.
d'avoir une bonne hygiène, sont accessibles quand même au plus grand nombre en matière de prix, j'imagine?
Alors, c'est tout l'enjeu et c'est aussi un des défis qu'on peut avoir, notamment quand on parle de développement durable. Souvent, les solutions plus écologiques coûtent plus cher.
Bien sûr.
Et c'est un vrai défi de faire entrer ces coûts de production plus élevés sur des produits qui doivent rester abordables pour l'ensemble de la population et des individus.
Puis en plus d'être plus écologique, il y a aussi le côté sanitaire, parce que je pense que quand moins il y a de produits chimiques, enfin c'est un fait, bah plus c'est naturel et meilleur est notre santé. Donc c'est quand même dingue de se dire, enfin c'est pour toutes les marques, hein, pas que pour vous, mais que finalement on va empoisonner, je pense qu'on empoisonne personne, mais que c'est moins sain et donc moins cher, et donc finalement c'est toujours les mêmes qui en pâtissent, quoi.
Oui, alors nous, on a une politique assez stricte. Évidemment, la priorité dans tous nos produits, ce sera de délivrer de l'efficacité de façon sûre. Et ensuite, on va pouvoir ajouter des bénéfices un peu plus cosmétiques, agréables et environnementales, bien sûr, hier déjà et demain aussi. Néanmoins, la partie efficacité va rester la priorité. Et c'est vrai qu'on a parfois besoin de produits chimiques pour pouvoir procurer cette efficacité et cette prévention de maladies ou de pathologies qu'on peut avoir dans la bouche quand il s'agit d'hygiène bucco-dentaire. Donc, les ingrédients naturels sont intéressants et on va essayer de les apporter autant que possible dans les formules. Néanmoins, si on doit garder certains éléments qui sont issus de la pétrochimie ou de la chimie de tout court, pour garder l'efficacité de nos produits, ce sera notre priorité.
Mais c'est transparent, c'est-à-dire que le consommateur sait exactement que le produit a des ingrédients.
Alors, de toute façon, on suit les réglementations françaises et européennes. D'accord. On a l'obligation de quantifier le pourcentage d'ingrédients naturels dans les formules. Et donc, c'est effectivement ce qu'on va indiquer sur nos emballages. Donc, effectivement, au travers de notre développement de formules, on essaye d'allier l'efficacité à la naturalité de la formule et des ingrédients autant que possible. Notamment, par exemple, avec Tahiti, qui est formulé avec 95% d'ingrédients naturels.
Et est-ce qu'il y a des alternatives peut-être moins efficaces proposées, mais du coup 100% naturel, ou c'est carrément pas votre parti pris? Vous préférez privilégier l'efficacité?
Oui, toujours.
Non, mais au moins, c'est clair. Enfin, moi, je préfère savoir, me dire, bon, bah, OK, là, je veux vraiment des dents blanches, mais je sais que je vais mettre un peu de pétrochimie dans la bouche. Non, mais au moins, en fait, je pense qu'aujourd'hui, le consommateur, ce qu'il reproche à la marque, c'est pas d'essayer d'optimiser son produit pour le rendre plus efficace, c'est le fait de pas en parler, d'être un peu pas très clair dessus. Donc, après, je sais qu'il existe plein de dentifrices 100% naturels, mais peut-être, du coup, moins efficaces, et c'est pas votre positionnement.
Exactement.
Donc au moins, vous êtes clair. Et question packaging, parce que forcément, moi, c'était l'une de mes premières questions, non, je pense pour tout le monde. D'ailleurs, bah, moi, j'ai bossé en retail, hein, donc ouais. Souvent, on se triture le cerveau pour dire, mais dentifrice, est-ce que tu as besoin de deux packaging? Je sais que vous en avez enlevé un des deux déjà, je crois bien. Mais en fait, c'est vrai que ça, c'est hyper compliqué et on vous attend. Enfin, je pense que le consommateur vous attend carrément là-dessus aussi. Comment vous avez fait je ne sais pas si toutes les marques, parce qu'il y a quand même beaucoup de marques pour certaines marques. Enfin...
Donc effectivement, on nous reproche souvent d'avoir encore un carton autour du tube.
Mais pas tous, non? Vous avez pas...
Alors certains ne l'ont pas.
Ouais, parce que moi, j'ai...
Néanmoins, on nous reproche malgré tout de ne pas l'avoir retiré systématiquement. Et il y a deux raisons et demie au fait d'avoir encore cet étui. La première, c'est une question aussi de réglementation dans le sens où on nous demande d'indiquer beaucoup d'informations sur les emballages. Or, un tube n'a quand même pas une surface de communication énorme, surtout si on veut malgré tout donner aussi des bénéfices plus cosmétiques ou qui vont plaire aux consommateurs pour qu'ils comprennent pourquoi est-ce qu'ils doivent choisir une variété par rapport à une autre. On a énormément d'informations à mettre, ce qui est compliqué de mettre sur un tube. Ça, c'est la première raison, mais on pourrait partir du principe qu'on arrive malgré tout à indiquer ces informations sur le tube seulement, puisque d'ailleurs, on peut le faire sur certaines références. Là où on cale, c'est quand on fait l'analyse du cycle de vie complet. On ne parle pas simplement du produit en lui-même, mais quand on réfléchit à la production, l'approvisionnement, la distribution du produit, ensuite l'usage, on se rend compte qu'un dentifrice dans un tube seulement par rapport à un dentifrice dans un carton, eh bien, c'est celui qui avec le carton qui a une meilleure ACV, une meilleure analyse du cycle de vie.
Parce que l'autre va être détruit entre-temps?
Non, en fait, le tube tout seul doit avoir un peu plus de plastique pour qu'il tienne dans le bouchon, par exemple, pour qu'il tienne de façon verticale sur son lavabo, parce que c'est comme ça qu'on a l'habitude d'utiliser le produit. Donc, tout de suite, rajouter plus de plastique à l'empreinte carbone.
Et parce que le bouchon est plus épais maintenant, c'est de visualiser.
Exactement.
Oui, d'accord.
Par exemple,
le packaging du tube sans le carton a plus d'impact que celui avec le carton qui reste de carton, en fait.
Exactement, le carton, on sait
mais
très
ça,
bien
ça,
le recycler,
hyper intéressant
que ce soit recyclable, etc.
Enfin, on manque vraiment d'infos, ouais. En fait.
Alors, ce n'est pas seulement le tube et le bouchon qui serait plus épais, c'est aussi toute la logistique de transport. Un tube souple, parce qu'on a besoin qu'il soit souple, bien sûr, pour pouvoir se faire sortir la pâte, a besoin d'être protégé dans les cartons pour le transport, surtout quand on empile beaucoup de cartons pour optimiser le camion, la palette et le camion derrière. Donc, ça veut dire qu'il faut renforcer les cartons extérieurs si le tube est seul. Ensuite, chez nos distributeurs, il faut aussi qu'ils puissent les mettre en rayon facilement. Donc, du coup, pour que ce soit simple pour eux, il faut les mettre dans des petits présentoirs. Donc là aussi, c'est du carton supplémentaire. Et donc, en fait, quand on calcule l'empreinte globale de ces deux options, Eh bien, effectivement, l'empreinte carbone est meilleure à date sur l'option dentifrice plus carton.
Et quid de la recharge ? Parce que franchement, pour avoir testé, alors j'ai testé plein de trucs, je suis une testeuse ambulante, oui. Non mais je trouve ça super, le petit flacon en verre qu'on recharge avec son dentifrice. Ça, c'est pas un truc sur lequel vous pouvez aller, le vrac et la recharge ?
Alors, on regarde différentes options. Là aussi, tout dépend de l'objectif, mais il faudrait malgré tout calculer là aussi l'empreinte carbone
bien
de chacune
sûr,
de ces options
sûr.
Pour vérifier qu'effectivement elle est meilleure.
Sans calcul, on ne peut pas, je suis entièrement ouais. d'accord.
Et l'autre considération qui est essentielle à avoir, c'est le comportement du consommateur et surtout son envie très souvent de changer de variété, de parfum
oui,
et de référence.
Justement, quand c'est des leaders comme vous, c'est-à-dire que quand c'est une petite marque, je peux comprendre, mais vous êtes un leader, donc en fait, on n'a pas beaucoup de choix mis à part vous finalement quand il y a le mec, il n'y a pas beaucoup de concurrence en rayon.
Oui, quatre acteurs majeurs. Oui.
Voilà. Si vous tous vous changez en même temps, bah en fait, on n'aura plus le choix et on va s'y mettre. Donc, en fait, on a besoin de vous là-dessus. Enfin, et quitte à nous éduquer, parce que je pense que c'est un peu facile de culpabiliser aussi le consommateur et de se dire, on ne peut pas changer. Mais en fait, je pense que si à un moment, on voit qu'il y a plus en plus d'offres, on n'en a pas du tout d'offres. En fait, on n'a pas d'alternative aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai essayé d'acheter, mis à part quelques marques, c'est compliqué de trouver du vrac. Moi, je pense que objectivement, ça peut être pas mal, surtout quand vous êtes un acteur, un leader.
Oui. Quoi. Pour continuer quand même sur cette réflexion, et c'est pas du tout pour mettre la balle chez le consommateur, mais on a aussi, je le disais, l'obsession de l'efficacité et de la sécurité. Et c'est vrai que quand on verse un nouveau produit dans un flacon qu'a déjà utilisé, surtout sur des formules qui sont liquides, telles qu'on peut l'avoir, ou pâteuses, avec de l'eau en tout cas dans les formules, on a des risques de développement de bactéries qui sont assez importants.
D'accord.
Et donc effectivement, si on utilise un flacon pendant très longtemps, qu'on ne le nettoie pas bien et qu'on verse de nouveau un nouveau produit dedans, il peut y avoir des mélanges de bactéries qui sont compliqués à gérer et qui surtout peuvent générer des problèmes de santé. Et c'est évidemment pas ce qu'on souhaite. Donc, il faut qu'on trouve aussi...
Non, mais c'est hyper important aussi de nous le rappeler ça, parce que ouais. Je sais pas trop si j'ai lavé mon truc ou que je recharge, d'ailleurs. Ça sent me dire, voilà. J'ai développé des bactéries. Non, mais
c'est
je pense que c'est important et c'est d'ailleurs d'où ma question, parce qu'il y a sans doute une raison pour laquelle vous n'avez toujours pas été là-dessus, parce que je pense qu'en vrai, on est assez curieux. Quitte à nous proposer une alternative comme ça, moi, je pense que les consommateurs sont friands. Après, comme tu le disais très bien, nous éduquer. C'est-à-dire nous dire, par contre, les gestes qui vont avec, c'est-à-dire nettoyage, etc.
Exactement. Alors, on est en train de faire un test en ce moment on a fait un test et on va essayer de continuer ce test sur des pastilles de dentifrice à croquer.
Genre à croquer ?
Voilà.
C'est cool en plus.
Oui.
Mais par contre, sans plein de trucs de sucre ou de machin, juste.
Oui, oui. Les formules restent.
Comme le dentifrice.
Restent classiques. Alors, oui, l'expérience n'est quand même pas comme un dentifrice.
D'accord.
Donc, on essaye des solutions. Néanmoins, effectivement, on n'a pas encore trouvé la solution ultime. On propose déjà, malgré tout, sur d'autres catégories de produits, des éco-recharges qui sont un
petit
peu
douche,
plus.
Non, les trucs.
Exactement.
Voilà, ça,
exactement.
J'ai l'impression qu'après, comme tu dis, il y a une maturité aussi du consommateur. Je pense qu'il est très friand et de plus en plus de produits très naturels et éco-responsables sur tout ce qui est gel douche, même shampoing.
Oui.
Moi, je sais que même, il y en a beaucoup qui me demandent d'écouter pas mal de marques sur des shampoings solides, etc. Donc, j'ai l'impression que là-dessus, le consommateur est plus mature.
Exactement. Et sur la marque Sanex, on est précurseur sur beaucoup de ces sujets, à la fois en termes de formule et d'emballage. Les éco-recharges, on les propose depuis 2007. Donc, on était dans les premières marques à proposer des éco-recharges sur les gels douche. Là, on lance une douche solide aussi pour supprimer complètement le plastique sur une offre douche. Donc effectivement, on propose des solutions sur des catégories. Dès qu'on pense qu'on a une proposition que produit efficace et pertinente pour le consommateur, on les propose et on laisse le consommateur disposer.
Et moi, j'ai une question. En fait, aujourd'hui, le GIEC nous demande d'être plus sobre, plus minimaliste, etc. Et comme vous êtes quand même sur beaucoup de produits de première nécessité, c'est hyper important. Mais il y a beaucoup de lancements de produits. Et je me demande, c'est vraiment une réflexion personnelle, mais je pense que je ne suis pas la seule à me poser cette question-là. Est-ce qu'on a besoin de toute cette multiplicité de produits, en fait ? Est-ce que... alors après, vous restez une entreprise, donc le but d'une entreprise, c'est quand même de faire un chiffre d'affaires. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas revenir à quelques produits de base ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça ou ça reste un peu du marketing quand même ?
Il y a évidemment un petit peu des deux. Néanmoins, nous, sur nos catégories de produits, on est sur proposer un dentifrice, une brosse à dents.
Mais quand il y a deux goûts différents, c'est deux goûts différents de toute façon.
Oui.
C'est pour offrir plus de choix.
Oui.
Mais voilà, moi, ma question après, c'est comme beaucoup de marques. De toute façon, là, c'est une question que je peux adresser à n'importe quelle marque qui va offrir plus de services. Même moi, si j'étais une marque, le but, ce serait quand même de proposer plusieurs services pour essayer de, pas de créer un besoin, mais de créer un petit peu de trucs sympas, un peu différents. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu le rôle des marques aussi, c'est peut-être de plus agir et sur l'éco-responsabilité du produit plutôt que de trouver encore de nouveaux produits. Je pense qu'on a suffisamment de produits qui répondent à suffisamment de besoins aujourd'hui. Et je pense que là où on attend les marques, nous, les consommateurs, c'est vraiment sur comment est-ce que mon produit a le moins d'impact possible sur la planète, a le meilleur impact possible sur notre santé. Tu vois, donc je pense qu'aujourd'hui, l'énergie que devraient mettre les marques, c'est dans la conception, la révision de la conception de ces produits, quitte même à... je ne vais pas dire les mettre plus chers, mais là, encore une fois, je pense que l'État devrait aider ceux qui n'ont pas les moyens pour pouvoir acquérir ces produits naturels. Quitte même, pour vous, pour ne pas baisser en chiffre d'affaires, peut-être proposer moins de produits, mais un peu de meilleure qualité. Donc, comme tu le disais, forcément, impact sur le prix.
Oui.
Mais donc, ça, c'est des réflexions, encore une fois. Mais je pense qu'aujourd'hui, le consommateur, et on le voit parce qu'il y a de plus en plus de marketing, où d'ailleurs, les marques sont taclées souvent greenwashing, impact washing, etc. Sur beaucoup de nouveaux produits, les gens se disent de plus en plus, ça, on n'en a pas besoin, en fait, de ça. Enfin, c'est bon, on a déjà tout. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que vous trouviez des solutions pour réduire l'impact de vos produits, en fait.
Ouais. Tu vois ? Après, nous, on essaye surtout d'encourager les bons gestes et de s'assurer que, on est encore une fois sur les produits de prévention, sur l'hygiène bucco-dentaire, les soins du corps, les déodorants. Donc, on essaye plutôt de rendre nos formules agréables et proposer effectivement un portefeuille qui plaise à la majorité pour que les consommateurs finalement utilisent le minimum dont ils ont besoin pour garder une bonne hygiène.
Vous avez des éco-gestes d'ailleurs ? Est-ce que vous avez une partie sur le site avec des éco-gestes, par exemple, ne pas gaspiller
On a fait des campagnes notamment pour l'économie d'eau, parce qu'on se rend compte là aussi que notre empreinte carbone, le scope 3 en aval est la majeure partie de notre empreinte carbone, et notamment la consommation de nos produits. Les gels douches, ça passe par la consommation d'eau et le chauffage de l'eau de sa douche. Pour le brossage des dents, c'est aussi près de la moitié de l'empreinte carbone et la consommation d'eau, en fait. Donc, c'est vrai qu'on essaye de faire des campagnes de communication sur réduire sa quantité d'eau quand on prend sa douche, etc. Néanmoins, c'est un petit peu culpabilisant et c'est enlever un peu du plaisir de la douche. Donc, il faut trouver le bon message.
Non, mais c'est compliqué. Mais en même temps, moi, je trouve ça hyper sympa que la marque dise, oublie pas genre de fermer ton robinet, quoi. Enfin, c'est bien. Enfin, c'est aussi le rôle des marques, je pense, parce que les gens qui adhèrent, et je pense que d'ailleurs, les gens qui adhèrent à des marques sont assez fidèles. Je ne sais pas si vous avez d'ailleurs des consommateurs fidèles, mais je pense qu'une fois qu'on a trouvé son gel douche, on n'en change pas des masses.
Ça dépendra des marques, mais on a effectivement, et des consommateurs surtout.
C'est vrai, c'est des consommateurs, oui, c'est vrai.
Et des consommateurs très attachés à la marque Tahiti et aux boîtes des tropiques, par exemple.
C'est vrai.
Et d'autres aussi, consommateurs très attachés à Sanex. Alors que certains consommateurs ont du mal à acheter Sanex parce qu'il n'y a pas assez de parfum, c'est pas assez de texture ou de sensation agréable.
Et sur le packaging, au-delà de le réduire, est-ce que vous avez revu l'histoire du plastique ? On a quand même un souci aujourd'hui avec le plastique.
Ouais.
Est-ce que c'est un de vos chantiers
Alors, clairement, et une de nos fiertés, c'est d'avoir rendu le tube de dentifrice recyclable.
100% ?
Alors, il est complètement recyclable dans le sens où c'est du PEHD, c'est du monomatériau, c'est qu'un seul type de plastique dedans, alors que historiquement et sur la majorité des dentifrices qui étaient commercialisés dans le monde, c'était un mélange d'aluminium et de plastique. Donc, cet emballage n'était pas recyclable. Et donc, Colgate a fait 5 ans de recherche pour pouvoir développer cette technologie de PEHD, qui est un plastique qui est très facilement recyclé par toutes les collectivités, et maintenir une qualité de souplesse dont on a besoin pour pouvoir extraire la pâte. Et donc, commence à commercialiser depuis 2019 nos dentifrices dans ce tube recyclable. Mais on ne s'arrête pas là.
Et nous, on doit le mettre où ? Parce que j'imagine que si on le met dans notre poubelle, il ne sera pas recyclé.
Alors maintenant, avec les nouvelles consignes de tri qui se mettent en place en France, l'ensemble de nos emballages doivent partir dans la poubelle de tri, qui n'est plus la poubelle de recyclage, mais qui s'appelle la poubelle de tri.
Parfait, c'est bien de le dire, sachant parce que je pense qu'il y en a plein, du coup, qui perdent l'utilité de cet emballage en le mettant dans le truc normal.
Ouais. Et notamment les produits de salle de bain, en fait, on a du mal encore à penser à les mettre dans les poubelles.
C'est pour ça que je dis ça, c'est que moi-même, machinalement, je pense que je l'aurais
dans la petite poubelle qu'on a dans sa salle de bain.
Malheureusement,
effectivement. Ouais. Et les centres de collecte sont capables d'identifier ce plastique pour pouvoir effectivement le transférer ensuite dans la bonne chaîne de traitement et de recyclage. Mais on ne s'est pas arrêté à transformer notre portefeuille avec cette technologie. On a proposé cette technologie en open source à tous les fabricants
Ça, c'est bien.
Deux produits
non, mais
dentaires.
Ça, on a besoin que les marques se serrent les coudes, en fait.
Exactement.
Parce que franchement, c'est exactement là-dessus qu'on vous attend. C'est trouver des solutions et les mettre en
place. Exactement. Donc, on l'a travaillé avec nos fournisseurs d'emballage. Et ces fournisseurs d'emballage peuvent aussi, effectivement, le proposer à tout fabricant de dentifrice, mais aussi de n'importe quel produit,
donc,
finalement.
Même une jeune marque qui naît peut avoir le... Super, ça.
Et on passe nous-mêmes du temps à expliquer à ceux qui sont intéressés. Et d'ailleurs, j'appelle toute personne qui est intéressée par en savoir un peu plus à me contacter. Et on peut effectivement échanger entre nos ingénieurs pour expliquer cette technologie et comment ce qu'ils pourraient imaginer de l'utiliser sur leurs propres produits.
Trop bien. J'aurais encore plein de questions à te poser sur l'environnement, mais on n'a pas assez de temps dans l'empreinte. J'ai trop mis une question, le transport, le machin. Mais j'ai aussi envie de parler, parce que justement, tu me disais que tu allais à Bordeaux pour faire des courses. Vous êtes beaucoup impliqué sur le pendant social et sociétal, j'imagine.
Ouais.
Est-ce que tu peux me raconter quelques actions, par exemple, que vous mettez en place là-dessus?
Oui, avec plaisir. Effectivement, la moitié de mon temps est passée sur l'impact social qu'on peut avoir, à la fois en interne et en externe. Et on se concentre beaucoup sur la diversité et l'inclusion.
Oui, mais d'ailleurs, même dans vos campagnes de pub.
Je suis contente que tu y penses, parce qu'effectivement, sur la pub Colgate, notamment, on met en valeur...
J'ai l'impression que c'est moins fake, que c'est beaucoup plus... en fait, c'est des gens comme nous. Enfin, je ne sais pas, je me reconnais beaucoup plus dans les marques aujourd'hui, en tout cas.
Effectivement, la façon dont on communique sur Colgate, c'est vraiment de donner le sourire à tout le monde et que tout le monde... Quelle que soit sa particularité ou qui on est, on a la capacité de briller et de sourire et de donner le sourire aux autres. Et donc, c'est effectivement, on a cette représentation de la diversité dans nos campagnes qui est très forte.
Agir pour donner le sourire, je trouve ça très, très sympa. C'est votre raison d'être.
Ouais.
Mais c'est exactement... Yann Arthus-Bertrand me disait « Agir rend heureux ». Et moi, je suis tellement d'accord avec ça.
C'est vraiment la raison d'être de Colgate. Le groupe Colgate Palmolive, ça va être de procurer un avenir plus sain pour les individus et notre planète. Mais ça regroupe finalement effectivement un peu les mêmes principes.
Non, mais pardon, donc je t'ai coupé sur l'engagement, sur le côté social.
Donc l'impact social, en interne, on se concentre beaucoup sur l'équité entre les hommes et les femmes et promouvoir les femmes. Et on a la chance d'avoir un comité de direction à parité en France et qui représente donc effectivement à peu près la population de notre société. L'autre axe, et dont je suis aussi très fière de contribuer, c'est qu'on a créé la mission handicap l'année dernière, en 2021. Là aussi, dans un but de sensibiliser l'ensemble de nos collaborateurs au handicap et de montrer aussi qu'on accepte tout le monde et qu'il n'y a pas de honte à avoir un handicap, qu'il faut au contraire en parler, pas forcément du handicap lui-même, mais de faire sa déclaration de personne en situation de handicap pour faciliter sa vie quotidienne. Effectivement, on fait des dons auprès des associations qui permettent, et ces associations redistribuent des produits de première nécessité à ceux qui en ont besoin. Ça peut être effectivement, là, on a, dans le cas de l'accueil des réfugiés ukrainiens, on a fait effectivement pas mal de dons dans le cas du Covid aussi. Hein. Mais même de façon générale et de façon plus récurrente, on propose souvent nos produits d'hygiène aux associations qui sont effectivement très preneuses parce que ce sont des produits essentiels pour que les personnes
se sentent bien.
Exactement. Et puissent rebondir quand il est en période difficile.
Est-ce que, d'ailleurs, il y a des personnes qui n'ont pas le budget, qui mettent ces produits-là de côté, c'est-à-dire qu'ils disent bah, « ça, clairement, je ne vais pas investir, je ne vais pas me brosser les dents ou je ne vais pas me laver
». En cas d'extrême précarité, effectivement. Ouais. Et c'est pour ça que ces associations sont importantes, car ces personnes pourront trouver des produits d'hygiène auprès d'elles et pouvoir se sentir mieux.
Bon, et globalement, c'est quoi tes prochains challenges? On en a un, parce qu'on a 3 ans pour sauver la planète et puis même globalement pour sauver les humains aussi.
Alors, comme moi, je suis dans une filiale, je me suis mise comme mission avec mon comité de direction de sensibiliser l'ensemble de nos collaborateurs à nos engagements et à ce qu'on peut faire concrètement chez Colgate en France et dans le monde. Et donc, effectivement, là, je suis en train de sensibiliser au travers d'une demi-journée de formation l'ensemble de nos 300 collaborateurs en France, du terrain et du siège. Sur nos engagements et sur les actions concrètes qu'on mène en France.
Et j'imagine qu'en plus, ils sont hyper preneurs parce qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de sens quand même dans leur métier. Donc,
exactement. Ça enrichit leur quotidien.
Et même eux peuvent vous enrichir parce que j'imagine que l'intelligence collective, on en parle souvent. Enfin, c'est hyper important.
Donc, là, j'ai sensibilisé à peu près les 3/4 de nos collaborateurs. Il me reste encore 4-5 formations à faire. Et mon espoir après, c'est que ça génère des idées dans certaines équipes auprès de certains collaborateurs pour qu'eux-mêmes viennent nous proposer des projets qui seront probablement très concrets, peut-être très spécifiques à la France, mais qui auront un impact soit sur le domaine de l'environnement, soit sur l'impact social. Et typiquement, on en revient à ce qu'on disait, on a commencé à en parler, mais donc on travaille avec l'association Premier de Cordée, qui est une association qui s'occupe de procurer, de donner des activités sportives aux enfants qui sont hospitalisés. Et ça, cette collaboration qu'on a pu mener entre l'entreprise Colgate Palmolive et Premier de Cordée, ça vient d'un collaborateur qui connaissait cette association, qui l'a trouvée géniale, qui trouvait que les valeurs étaient proches des nôtres et qui en a parlé au comité de direction et à moi. Et on a effectivement complètement adhéré à ce projet et les valeurs communes et le partenariat a été lancé et fonctionne très bien. Donc voilà, donc j'espère qu'au travers de toutes ces formations qu'on va pouvoir faire, d'autres projets, soit encore une fois sur l'impact environnemental, soit sur un impact sociétal, pourront naître depuis nos collaborateurs pour la société Colgate.
Bah, trop bien. Bah, écoute, je te souhaite bon voyage parce que tu pars, je crois bien, à Bordeaux pour ça.
Exactement.
En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses et j'espère que beaucoup de personnes seront inspirées par vos innovations, que vous continuerez à en développer parce qu'on a encore besoin de vous pour trouver encore des nouvelles solutions et continuer à agir en ce sens parce que voilà, on a besoin d'entreprises qui agissent parce qu'agir donne le sourire. Hein.
Exactement. On sera là pour ça.
J'espère. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.